On étudie le livre d'Hébreux. La semaine passée, on a vu le chapitre 1 d'Hébreux. Selon Statistique Canada, 90% des Québécois se déclarent chrétiens. En tout cas, d'appartenance au christianisme. J'ai été quand même étonné, ça veut dire plus de 6,5 millions. Mais en regardant l'état de la société, on a de la misère à croire que 90% de la population est chrétienne. On est en droit de douter de la foi chrétienne de plusieurs. Qu'est-ce qui caractérise un vrai chrétien? Je suis sûr que vous avez la réponse en tête, mais on va garder cette question dans votre esprit. Puis dans Hébreux 1 démontre clairement que Jésus est non seulement le prophète, le dernier prophète qui est venu, qu'il est en plus supérieur à tout ce qui existe. Il est supérieur aux anges, il est supérieur à tout messager de l'Éternel, parce qu'il est même le créateur des anges. Il est Dieu lui-même, il est infini dans son temps, dans ses capacités, dans son pouvoir, dans ses connaissances. C'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Donc, il est supérieur aux anges en tout point. Et on a même vu au verset 14 que les anges sont à son service, qu'il les envoie pour avoir un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont au service de Dieu et donc au service de Jésus. Ils sont ses serviteurs. Et leur rôle, c'est de venir nous servir, nous, ou servir ceux qui doivent hériter du salut. Donc, rendu à ce point, après avoir dit cela, les anges ont un ministère auprès de nous qui devons hériter du salut. L'auteur fait une parenthèse dans sa présentation de qui est Jésus pour parler du salut, ce si grand salut. C'est une parenthèse qui a un lien quand même avec le contexte, mais je vous invite à tourner dans Hébreux, chapitre 2. On va lire les quatre premiers versets. Donc, Hébreux 2, 1 à 4. « C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés, par des communications du Saint-Esprit, selon sa volonté. C'est ici, dans ces quatre premiers versets-là, c'est le premier avertissement de l'auteur aux Hébreux. Quand on lit toute la lettre aux Hébreux, il fait cinq avertissements majeurs. Ici, c'est le premier avertissement. Nous sommes avertis, ne négligeons pas un si grand salut. Ça veut dire que c'est possible d'être négligent face à ce salut. Puis, il y a trois raisons qui sont données dans ces quatre versets pour nous motiver, des raisons pour qu'on n'abandonne pas, qu'on ne néglige pas ce salut. La première raison qui est donnée, on va le voir ensemble, c'est le message qui nous a été transmis. La parole, elle est certaine, elle est sûre, on peut y faire confiance. Il y a d'autres messages qu'on entend qu'on pourrait négliger, mais celui de la parole de Dieu, il est à 100% vrai, donc on ne peut pas le négliger. La deuxième raison qui est donnée, c'est parce qu'il existe un danger de s'éloigner, de dériver, un danger réel, de dériver loin de Jésus, loin de sa parole. Et la troisième raison qui nous est donnée, c'est que Dieu est un Dieu juste, qui applique sa justice. C'est positif, mais c'est aussi négatif. C'est qu'il va appliquer son jugement et sa sentence. Dieu va appliquer son jugement. L'Épître aux Hébreux commence par cette affirmation-là. On l'a vu au chapitre 1, le premier verset. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Dieu nous a parlé par le Fils. Et c'est à cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, nous dit que nous devons porter une attention. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu. Parce que ce n'est pas seulement le message de prophète, le message qui était exact, donné de la part de Dieu. Mais ici, c'est le message du Fils de Dieu qui nous est donné. Mais comment on peut prêter attention aux paroles de Jésus s'il n'est plus là pour nous parler? Vous avez peut-être déjà entendu cette question. Jésus n'est plus parmi nous, là. Tu veux dire quoi par écouter Jésus, puis le suivre, lui obéir? Il n'est plus là. En plus, on n'a aucune lettre dans le Nouveau Testament qui est une lettre de la main de Jésus. Il n'a pas laissé de texte écrit de sa propre main. Donc, comment on peut suivre les paroles de Jésus? Mais le message original de Jésus, c'est sûr qu'il l'a, il l'a annoncé pendant ses 3 ans de ministère. Même il avait déjà commencé à envoyer des messages avant, mais pendant ses 3 ans de ministère, il l'a fait de manière intensive. Il a prêché dans tous les villages, les villes. Son message est un message de salut. Puis ensuite, ce message-là a été transmis par ses apôtres. Ses apôtres ont été délégués pour faire cette tâche. Et ce message-là consistait à annoncer l'arrivée du royaume. On le voit souvent dans les évangiles. Jésus annonce le royaume. Il explique qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Il offre la bonne nouvelle qui est le pardon de Dieu. Et il l'offrait à tous ceux qui étaient prêts à l'entendre. Le pardon de Dieu par son propre sacrifice. Il a annoncé un jour, alors qu'il était près de la mort, il a dit à ses disciples, « Je vais même mourir pour vous. » C'est le plan de Dieu. Il annonçait la repentance partout où il allait, prêchait la repentance, la foi, le besoin d'être sauvé, de changer de vie. Il a donné une foule d'indications aussi sur le comportement d'un chrétien, la vie chrétienne. Donc, il préparait ses disciples, ses apôtres, ses envoyés, à fonder son Église. Donc, c'est au nom de Jésus qu'ils ont parlé et qu'ils ont écrit. C'est la parole de Jésus qu'ils ont transmise. D'abord, ils l'ont transmise de manière verbale. Ils allaient puis prêchaient la bonne nouvelle. Ensuite, le Saint-Esprit leur a mis à cœur de consigner ces paroles-là, ce message-là, par écrit. Le Saint-Esprit les a inspirés. Ils ont rédigé ce qui a été rassemblé ensuite sous la forme du Nouveau Testament. Est-ce qu'ils ont réellement parlé au nom de Jésus? Comment on peut être sûr qu'ils n'ont pas inventé ce qu'ils ont écrit? On peut être sûr de l'authenticité de leur message parce que Dieu les a attestés, Dieu les a approuvés dans leur message. C'est dit ici dans Hébreu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés, par des communications ou des dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Donc, ils ont eu une confirmation de la part de Dieu. Les gens étaient en droit de douter de leurs paroles lorsqu'ils arrivaient et qu'ils annonçaient quelque chose de différent. Oh, ils parlent du même Dieu, ils parlent des prophètes, ils parlent des Écritures, mais ce qu'ils nous annoncent est nouveau. Est-ce que c'est vrai? Mais Dieu a appuyé leurs paroles, a attesté que ce qu'ils disaient était vrai. Et comment il l'a fait? C'est par une foule de miracles. On a plein de miracles qui sont cités dans le livre des Actes. Et on fait référence à cela aussi dans les Épîtres. On se souvient des miracles qui ont été accomplis par les apôtres. Ils ont fait preuve d'un courage surnaturel. Plusieurs d'entre eux avaient peur, et même lorsque Jésus a été capturé, ils ont tous fui, tellement ils avaient peur. Celui qui était le plus brave d'entre eux, Pierre, a même trahi son maître. Mais on voit par la suite que par le Saint-Esprit, ils sont devenus courageux. Et ils n'avaient plus, leur vie n'avait plus de valeur à leurs yeux. Ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur. C'est surnaturel. Ils avaient de l'assurance, de la patience à toute épreuve. Ils ont communiqué à des peuples dans des langues étrangères. Ils ont réussi à communiquer dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont guéri des malades, guéri des paralytiques, même ressuscité des morts. Ils ont été protégés de manière miraculeuse. Ils ont expulsé des démons. Donc, ils ont même participé au nettoyage du monde spirituel pour faire place à l'Église. Donc, Dieu, s'il leur a donné la capacité de tout faire cela, c'était pour attester que leur message était vrai, authentique, et que ce qu'ils prêchaient était véritablement la parole de Jésus. Parce que Jésus lui-même, en réalité, s'il a fait tous ces miracles, c'était pour attester le fait qu'il venait véritablement de Dieu. Dans Actes 2, 22, il est dit, « Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Il continue à en dire, « Ce Jésus-là approuvé de Dieu, vous l'avez crucifié. » Mais il résume ici que Jésus, c'était par acte de bonté qu'il faisait tout cela. Mais le but, c'était d'attester qu'il était réellement un envoyé de Dieu et que ce qu'il disait, ce qu'il prêchait, était la parole de Dieu. Puis Jésus a annoncé à ses disciples qu'après son départ, eux, ils allaient prendre sa relève d'une manière miraculeuse même. Il dit, « Le Saint-Esprit, dans Jean 14, « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. » Il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il va vous rappeler à la mémoire toutes mes paroles. Vous allez être capable de prêcher mon message et de l'écrire. Et dans Jean 15, 26, 27, il dit, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Et effectivement, les apôtres ont rendu témoignage de Jésus. Et les gens ont pu croire que ce qu'ils disaient était véritablement la parole de Dieu. Les apôtres ont demandé cela, poussés par le Saint-Esprit. Dans Actes 4, 29-30, il dit « Maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. » Dans Actes 14, 3, on voit « Il parlait plein d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes, des prodiges se produire par leurs mains. » Donc, si les apôtres ont fait tous ces signes, ces prodiges, mais c'est parce que Dieu voulait attester leur parole, voulait leur permettre d'être un témoignage vivant de la parole de Jésus. Dans Actes 8, il dit « Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. » Paul dit même, alors qu'il prend sa défense dans 2 Corinthiens 12, parce que des gens doutaient qu'il était véritablement un apôtre, il dit « Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. » Il leur rappelle les signes, les prodiges qui ont été faits par sa main pour attester qu'il est véritablement un apôtre et que ce qu'il leur enseigne, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement une parole d'homme. Donc, dans le fond, tous les miracles répertoriés dans le Nouveau Testament ont pour but de démontrer la puissance de Dieu et d'attester que c'est véritablement son message. C'était nécessaire pendant le début de l'Église, pendant l'expansion de l'Église, surtout dans le temps de rédaction du Nouveau Testament. Mais on voit que ça s'est estompé avec le temps. Même lorsqu'on lit le livre des Actes, on voit au début du livre des Actes une foule de miracles, et vers la fin, ça s'estompe. Ce n'est pas que le Seigneur devient moins actif, mais il agit plus derrière les événements, dans l'ombre. Ceux qui ont la foi le voient agir. On voit comment Dieu a protégé Paul dans les derniers moments ou dans son dernier voyage vers Rome. Parce que nous croyons que Dieu est derrière ces événements-là, qu'il contrôle tout. Et ça reste des événements surnaturels et miraculeux. Mais ce ne sont pas des signes pour attester. Et ce ne sont plus sous la base d'un don du Saint-Esprit qui est accordé à un homme de faire des miracles. Dieu répond encore aujourd'hui de manière miraculeuse à nos prières. On a été témoins en tant qu'assemblée de plusieurs miracles. Et dans la vie de tous les jours, lorsqu'on voit des cœurs transformés, des gens se tourner à lui, et des réponses aux prières aussi pour nos besoins de tous les jours, le travail, la santé, on voit Dieu répondre, qu'il accorde la paix à quelqu'un qui est dépressif ou qui souffre d'anxiété. On voit Dieu agir. Et ça reste un miracle et édifiant pour nous. Mais ce n'est jamais à la manière des apôtres. On a vu la même chose dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple d'Israël a été sorti délivré d'Égypte, c'était une période où il y a eu une foule de miracles. Les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Dieu était avec eux sous la forme d'une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ils ont vu des miracles, des signes, des prodiges devant leurs yeux. Mais tout cela avait pour but d'attester que la parole de Moïse était véritablement la parole de Dieu. La loi était en train d'être donnée. Mais par la suite, on voit que ça s'estompe. Non pas que le peuple n'a pas besoin d'avoir une preuve, mais le peuple d'Israël était toujours référé aux miracles qui avaient eu lieu. On voit dans les psaumes, dans les écrits des prophètes, ils se réfèrent constamment à la sortie d'Égypte et à ce que Dieu a fait comme miracle. Et ils sont invités à baser leur foi sur les miracles qui ont déjà eu lieu. Mais il y en a eu d'autres miracles aussi, au fur et à mesure que les prophètes se présentaient, parce que Dieu, pour la période d'écriture de l'Ancien Testament, ça s'est étalé sur plusieurs siècles et par la bouche de plusieurs prophètes. Et le Nouveau Testament, il y a un prophète et c'est Jésus. Donc, on ne s'attend pas à voir ressurgir aujourd'hui un nouveau prophète qui va attester, dont Dieu va attester sa parole pour une foule de miracles. On doit plutôt être sur nos gardes lorsqu'on voit un individu de la sorte. On fait attention même. On peut être tenté même de désirer renforcer notre foi en voulant expérimenter quelque chose de surnaturel. Ça peut être bon, Dieu peut se révéler à nous d'une manière surnaturelle. Il peut manifester sa présence. Mais nous sommes invités constamment dans le Nouveau Testament à méditer sur la parole de Dieu, à méditer sur les miracles qui se sont déjà produits. Notre foi, il n'y aura pas de limite à renforcer notre foi si on plonge nos regards dans la Bible. Dieu va l'utiliser pour nous renforcer, pour nous fortifier. D'ailleurs, dans Romains 10, Paul le dit, Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de... » la parole de Christ. Donc, la première raison pour ne pas négliger cette parole-là, ne pas négliger un si grand salut, c'est que sa parole est certaine, elle est attestée. C'est sûr, c'est la parole de Dieu que nous avons entre les mains, c'est le message de Jésus. La deuxième raison pour ne pas négliger, c'est qu'il y a un danger d'être emporté loin d'elle. Un danger réel, un danger d'aller à la dérive. L'image qui est utilisée ici, il y a différentes traductions, là, mais le mot littéralement signifie « dériver », comme un radeau. Et on suppose que l'auteur utilise cette expression-là, c'est parce que c'était connu de l'époque. C'est l'image d'un bateau qui était sur la mer, et quand on est sur la mer, on est à la merci des intempéries du vent ou des vagues. Mais quand on arrive au port, on arrive en sécurité. Mais si on n'est pas amarré, si on n'est pas attaché au port, on demeure en danger. Même si on est arrivé au port, qui est comme le salut pour les matelots, si on n'est pas attaché, on est à la merci des vagues, du courant, du vent, et le bateau va dériver. Et ce qui l'attend, c'est la destruction. Le Nouveau Testament nous enseigne clairement qu'il n'est pas possible de perdre le salut. On le dit souvent. Du point de vue de Dieu, il voit nos âmes, et celui qui est sauvé est sauvé. Il y a une foule de versets qui nous le montrent. Jean 5, 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie et au présent, il l'a. » Pas « il l'aura peut-être », il l'a. Et pas n'importe quelle vie, une vie éternelle. Comment elle peut être éternelle si elle peut être perdue? Elle est éternelle, conditionnelle? Non, elle est éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Dans Éphésiens 1, 13, 14, il dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Pas n'importe quel sceau, le sceau du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de votre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Puis dans notre lettre aux Hébreux, au chapitre 10, verset 14, il est dit, « Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Ce qui fait dire à Paul dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » C'est une chose sûre, celui qui est sauvé, dont le nom est écrit dans le livre de la vie, son nom ne serait pas effacé. Mais d'une perspective humaine, Dieu nous fait la grâce de nous montrer la perspective divine. Mais à nos yeux, en tant qu'humains, on voit des gens venir à Jésus et abandonner la foi, dériver et être détruits par les vagues, s'échouer sur des rochers. C'est parce qu'on ne peut pas voir la sincérité dans le cœur des gens. On ne peut pas voir si le sceau du Saint-Esprit est apposé sur eux. On n'a pas des lunettes pour voir dans le monde spirituel. On ne peut pas voir si leur nom est écrit dans le livre de la vie. On peut voir ceux qui sont venus à Jésus. On peut voir les bateaux qui sont venus au port. Mais c'est seulement avec le temps qu'on peut voir s'ils se sont réellement attachés à Jésus. Et Jasmine l'a mentionné ce matin dans son témoignage, que lorsqu'elle était jeune, elle était venue à Jésus. Mais c'est seulement lorsqu'elle méditait dans le cours de baptême qu'elle a compris qu'elle avait besoin de s'attacher à Jésus. Ça fait toute la différence. Pendant un temps sur la terre, peut-être qu'on ne voit pas beaucoup la différence, mais ça fait toute une différence. Ça fait une différence éternelle. On peut avoir l'air chrétien sans en être un. Ça m'a fait penser au café. Bon, j'en reviens souvent sur le café. Mais on peut un jour avoir été conduit vers le café. Puis on peut apprécier même l'odeur du café, la couleur du café, la chaleur d'une bonne tasse de café. On peut apprécier même être auprès de gens qui apprécient le café. Mais si on ne boit pas du café, on n'est pas un buveur de café. On peut peut-être en avoir l'air en un temps, mais on n'est pas un vrai buveur de café si on n'en boit pas. Ce qu'on entend souvent parler ces jours-ci, c'est le hockey. J'ai un aveu à vous faire, je ne suis pas un vrai partisan des Canadiens. Pour le moment, oui, mais j'ai l'impression que je ne me suis pas attaché solidement. Parce que si les Nordiques reviennent à Québec, là, c'est sûr que je vire mon capot de bord. Il y a des vrais partisans, il y en a des faux. Êtes-vous réellement attaché à Jésus? Ça fait peut-être des années que vous allez à l'Église, des années que vous lisez la Bible, que vous appréciez être avec des chrétiens. Mais est-ce que vous êtes réellement attaché? Est-ce que vous êtes au port parmi les autres bateaux? mais vous ne vous êtes pas amarrés. Jésus lance constamment cette invitation-là. C'est pour ça qu'il revient toujours dans ses messages, disant « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Même dans les versets qu'on a lus tantôt, qui nous montrent la permanence du salut, il n'y a pas de condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Seulement, pas ceux qui le disent, l'être, mais ceux qui le sont réellement. Tout est dans la sincérité du cœur. On peut faire semblant d'être un chrétien, et on n'est pas attaché. Croyez-vous sincèrement qu'il a fait tous ces miracles? Quand vous lisez les Évangiles, vous voyez que Jésus a marché sur l'eau. Il a calmé la tempête seulement par sa voix. Il a ressuscité Lazare en le faisant sortir de la tombe. Même, il est ressuscité lui-même. Il était mort, il est revenu à la vie. Croyez-vous tout cela ou pour vous, c'est des légendes? Ou c'est secondaire? Croyez-vous sincèrement qu'il est le Fils de Dieu? Ou il est simplement un prophète? Et son message est bon et ça vous fait du bien. Si vous ne croyez pas ce qui est présenté dans l'Évangile, comment pouvez-vous croire à son message? Si vous ne croyez pas qu'il est le Fils de Dieu qu'il prétend être, comment pouvez-vous croire à son message de salut et être sauvé? Si vous n'êtes pas sûr que tout cela est vrai, comment pouvez-vous croire que vous êtes sauvé? C'est une invitation à tous à revisiter son cœur. Suis-je sincère? Et ceux qui sont sincères parmi nous, nous sommes quand même invités. Ce texte-là est utile pour nous. À vérifier si notre cordage est en bon état, nos nœuds sont bons. Est-ce que notre corde est en train de s'étirer, puis que l'on se fait brasser par les vagues, puis on subit les mauvaises conséquences de notre éloignement du Seigneur? Oui, notre corde va rester là, mais on peut se faire brasser pas mal. La Bible nous invite à s'attacher à Christ, de tout notre cœur. Qu'est-ce qui peut nous faire dériver? Mais les vagues, le vent, c'est les plaisirs du monde. C'est les soucis du monde aussi, nos inquiétudes, la pression du monde pour qu'on ait une bonne carrière, qu'on accumule beaucoup de biens, qu'on passe beaucoup de temps dans les loisirs, qu'on ait voyagé dans plusieurs pays. On a toutes sortes de pressions différentes. L'argent peut être quelque chose qui détourne notre attention, qui nous éloigne. Le prestige, le désir d'obtenir le prestige aussi peut nous éloigner. Donc, si on ne doit pas négliger la parole de Dieu, c'est premièrement parce qu'elle est à 100% vraie, c'est le message de Dieu. Mais aussi parce que si on néglige cette parole, on va forcément s'éloigner. Et malheureusement, ceux qui ne sont pas attachés fermement vont même s'éloigner pour leur destruction. Devons plonger nos regards dans la Bible régulièrement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis qu'on l'ait aujourd'hui entre nos mains. On l'a même sur notre téléphone cellulaire, on l'a partout. On n'a pas d'excuse pour ne pas la consulter et la lire. Et la troisième raison pour ne pas négliger la parole de Dieu, c'est parce qu'elle présente la seule manière d'être sauvé. La seule manière d'obtenir le salut est d'éviter le jugement de Dieu. Oui, Dieu est bon, il est plein d'amour, mais il est juste. Il va appliquer sa sentence, son jugement. C'est pour ça que l'auteur dit ici, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Ça concerne tout le monde, ça. Il n'y a personne qui peut dire, « Ben, moi, je ne crois pas en Dieu, donc je ne me place pas sous sa loi. » Non, non. C'est pour ça que l'auteur parle aux « nous », tous les êtres humains, nous tous, nous sommes concernés par le jugement de Dieu, qu'on croit en lui ou non. Mais son message nous révèle la justice de Dieu et qu'un jour, il va juger l'humanité. Ce n'est pas qu'une menace en l'air, ce n'est pas une invention des églises, ce n'est pas que nous interprétons la Bible de manière à vouloir faire peur aux gens. Jésus l'a dit. Même Jésus a parlé plus souvent même d'avertissement, du besoin de se repentir, que de l'amour de Dieu. Et au verset 2, il dit, « Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. » Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il parle de la parole prononcée par des anges. Ici, c'est une doctrine bien connue à l'époque, qui nous est un peu moins familière. Les gens croyaient en général, les Juifs, que la loi avait été donnée dans l'Ancien Testament par l'intermédiaire des anges. Que lorsqu'il est dit que l'Éternel était avec Moïse sur le mont Sinaï, en fait, c'était un ange qui représentait l'Éternel, c'était l'ange de l'Éternel. Et que par la suite, Dieu a continué à donner toute une foule d'articles de sa loi, que ça a été donné, transmis par des anges. On a quelques indices dans l'Ancien Testament, comme dans Deutéronome 33:2, il dit « L'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran. » Il est sorti du milieu des saintes myriades, des myriades d'anges. et il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. David dit aussi au psaume 68, « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le lieu saint. » Donc, il y avait une allusion très forte à ce que c'est par les anges que Dieu a envoyé son message. Et le Nouveau Testament le confirme, dans Actes 7, 38, « C'est Moïse qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il reçut des vivants oracles pour vous les donner. » Dans Actes 7, 53, il dit, « Vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges. » Dans Galates 3, 19, « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. » Donc, Dieu a offert son salut par l'intermédiaire des anges. Et son salut qu'il offrait, c'était du terre-à-terre. À cette époque-là, il y avait une allusion à la vie éternelle, mais c'était du terre-à-terre. Dieu leur offrait d'être sortis de l'esclavage, d'une vie d'un peuple soumis à d'autres peuples, pour avoir une pleine liberté et une terre où ils allaient pouvoir être propriétaires et être heureux. Il leur promettait un bonheur. Mais tout cela, c'était par la foi. Par amour pour ce Dieu, ils devaient le suivre, faire sa volonté, lui obéir. Et toute désobéissance amenait son salaire, sa transgression, son châtiment, sa rétribution. Ce n'était pas des menaces en l'air. Parce que le peuple, une fois sorti d'Égypte, une fois rendu aux portes de la terre promise, ont rejeté l'offre de salut du Dieu. Et ils ont tous péri. Dieu les a fait tourner dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération-là périsse. Il y a seulement Josué et Caleb qui ont pu finalement entrer en terre promise. Donc Dieu a appliqué sa justice. Dans tout l'Ancien Testament, on voit que Dieu applique sa justice. Ce n'est jamais des menaces en l'air. Pourtant, c'était des avertissements donnés par l'intermédiaire d'anges. On a vu au chapitre 1 à quel point Jésus est supérieur aux anges. Donc si Dieu a honoré la parole transmise par des anges, à plus forte raison, il va honorer la parole transmise par son Fils Jésus. C'est sûr que lorsque Jésus parle, que plus tard, Dieu va trancher, puis certains vont aller au ciel et d'autres iront en enfer, qu'il va appliquer son jugement, c'est sûr que ça va s'accomplir. Si Dieu a accompli la parole prononcée par des anges, c'est sûr qu'il va accomplir la parole prononcée par son Fils. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger ce si grand salut. En quoi il est si grand ce salut? C'est parce que la perdition est grande. À l'époque, le peuple d'Israël risquait de mourir. Aujourd'hui, ce que l'humanité risque, c'est de mourir éternellement. C'est la mort éternelle. Être éternellement coupé de Dieu, qui est la seule source viable de plaisir. Donc, être éternellement coupé de toute source de plaisir, toute source de paix, toute source de jouissance, toute joie, remplie de souffrance et de remords. C'est pourquoi le salut est si grand, c'est parce qu'on est sauvé d'une si grande perdition. Aussi, le salut est très grand parce qu'il n'est pas seulement temporaire, terrestre. C'est pour l'éternité. Il est céleste, il est durable. Un bonheur extrême, un bonheur absolu. Si vous essayez de vous imaginer une situation, vous souvenez d'une situation où vous avez été vraiment heureux, un sentiment d'extase. Mais c'est rien comparé au sentiment que vous allez avoir dans le ciel, et ça va être pour toujours. C'est une joie indescriptible. Plus aucune souffrance. Éternellement dans la présence du Créateur qui nous a fait grâce et qui nous aime. Ce salut est si grand aussi parce qu'il est le seul salut. S'il y en avait 100 façons d'être sauvé, il ne serait pas aussi grand que cela. Mais il est le seul. Le salut que Jésus nous offre, c'est le seul moyen d'être sauvé de cette perdition, d'être sauvé du jugement et de la sentence de Dieu qui va appliquer avec justice. Il a le droit de le faire, Dieu. Il est en droit et même il a le devoir d'accomplir sa justice. Mais le salut offert par Jésus, c'est le seul. Donc, son salut est immensément grand. En mathématiques, même, on dirait qu'il est infini. La grâce de Dieu, c'est le seul salut possible. Son pardon nous est accordé et il y a une seule forme de paiement pour obtenir le pardon de Dieu. Il n'accepte pas Interac ou Mastercard. La seule forme de paiement, c'est le sang de Jésus. On peut chercher le pardon de Dieu par différentes manières, en essayant de faire le bien, en essayant de changer sa vie. Même peut-être on peut essayer d'obtenir le pardon de Dieu en lisant religieusement la Bible. Mais le seul moyen d'obtenir le pardon de Dieu, c'est en croyant que Jésus a payé le prix. C'est ce prix-là qui est notre billet pour obtenir le pardon de Dieu. Toute autre forme de paiement sera refusée. Donc, il n'y en a pas beaucoup, en réalité, qui sont attachés au port, qui sont amarrés. Même si 90 % de la population se dit chrétien, qui d'entre les Québécois connaissent réellement la parole de Dieu et connaissent ce salut éternel et même ce souci de l'éternité? Ils vivent comme s'il n'y avait pas de vie après la mort ou que ce n'était pas important. Ce qui caractérise un vrai chrétien, c'est qu'il ne néglige pas la parole de Dieu. Elle est réellement importante dans son cœur. Il aime la parole de Dieu. Donc, sonde ton cœur. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes son message? Sinon, tu n'es peut-être pas attaché, mais tu peux t'attacher maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnaître que tu as besoin d'être sauvé. Reconnaître que Dieu est juste en déclarant qu'il va te punir. Et chercher son secours, chercher son salut, son pardon, en croyant que Jésus a déjà payé à ta place. Et si tu lui demandes, Dieu promet dans sa parole que sa réponse sera oui. Il va te pardonner, il va te sauver. Le véritable chrétien ne néglige pas la parole de Dieu parce qu'il croit qu'elle est véritablement la parole de Jésus. À 100%, il croit tout ce qui est écrit. Le véritable chrétien ne néglige pas la parole de Dieu parce qu'il ne veut pas s'en éloigner. Il ne veut pas partir à la dérive. Il retourne. Et lorsqu'il ne le fait pas, bien, parfois c'est Dieu qui le ramène. Ça peut faire mal, par contre, quand Dieu nous ramène. On a besoin parfois d'une bonne correction. Mais le véritable chrétien s'attache à la parole de Dieu. Parce que le véritable chrétien croit qu'un jour, il va y avoir le jour du jugement. Et il a une pensée pour l'éternité. Il ne vit pas de pain seulement. Il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions un instant. Seigneur, tu vois combien la mer est agitée dans Rosemont, ici, dans Montréal, au Québec, dans ce monde. Et nous sommes brassés, mais nous voulons être en sécurité dans tes bras. Nous ne voulons pas dériver. Garde-nous attachés à ta parole. Donne-nous un amour grandissant pour toi. Que l'on comprenne à quel point tu nous aimes. Que l'on comprenne toute la hauteur, la largeur, la profondeur de ton amour. Qu'on apprécie ta grâce pour nous, qu'on soit reconnaissant, qu'on craigne le seul Dieu réel et le Dieu qui va appliquer sa justice. Aide-nous à avoir des vies qui ne te fait pas honte, et qu'on puisse témoigner même et attester ta parole par nos vies. Continuer le rôle, la tâche donnée aux apôtres. En tant que disciples, nous professons notre foi, nous disons chrétiens, permet que par nos actions, nous témoignions de ce qu'est un vrai chrétien et que nous témoignons de Jésus-Christ. Rends-nous semblables à ton Fils. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.